Chaque année, des millions de Français se trouvent devant un choix important, un choix sacré, un choix capital, un choix qui impacte toute la famille. Pour certains, c'est un choix facile. Pour d'autres, c'est un choix difficile. Pour certains, c'est un choix qui coûte cher. Mais parfois, il faut faire des sacrifices dans la vie. Certains repoussent le choix jusqu'à ces jours-ci, mais c'est un choix inévitable. Et comme on dit souvent, ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Alors vous, votre choix est-il fait? Où passer les vacances? Oui, c'est un choix très important pour les Français, mais on peut reconnaître qu'il y a des choix encore plus importants dans la vie. Parcoursup, quel conjoint, quel métier? Et le texte que nous allons étudier ce matin fait partie de quelques passages célèbres dans la Bible qui nous mettent devant le choix certainement le plus impactant de la vie. Je vous invite à chercher Josué chapitre 24. Et nous allons lire la fin de ce livre que nous étudions depuis quelques mois. Josué 24. Lisons ensemble Josué 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arriva à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. L'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoriens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous pris possession de leur pays, je les détruisais devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoriens, les Phériziens, les Cananiens, les Éthiens, les Girgassiens, les Éviens, les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face comme les deux rois des Amoriens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoriens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Voilà, ici nous avons les dernières paroles de Josué avant sa mort, le dernier chapitre de ce livre, et nous trouvons une charge solennelle au peuple avant que Josué meure, où il leur demande, comme dans ces versets 14-15, « Choisissez aujourd'hui quel Dieu vous allez servir. » Il les met devant le choix ultime d'une vie. Quel Dieu allons-nous choisir? Quel Dieu allons-nous servir? Et si ça peut vous aider ce matin à vous placer devant ce même choix, considérez les vérités suivantes. Servir un Dieu, c'est inévitable. Choisir un Dieu, c'est inévitable. Échouer à son Dieu, c'est inévitable. Alors pour ces raisons-là, je voulais vous encourager à faire le choix de Josué. Tout d'abord, cette vérité, servir un Dieu, c'est inévitable. Notez le langage de service tout au long de ce chapitre. Le mot « servir » apparaît 22 fois dans ce chapitre, c'est beaucoup. Verset 2. Vos pères, Térakh, père d'Abraham, père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Et puis le choix qu'il leur propose de faire, en 14 et 15, c'est de servir l'Éternel. Verset 15, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et ainsi de suite, beaucoup de versets évoquent la notion de servir un Dieu, de servir l'Éternel ou de servir d'autres dieux. Et en fait, Josué met le peuple devant une grande vérité. La question n'est pas si vous allez servir Dieu ou pas servir Dieu. La question est toujours quel Dieu allez-vous servir? Certains diraient, mais moi, je suis indépendant, je ne sers personne, j'ai ma liberté. Mais en réalité, ça marche pas comme ça. Vous allez forcément servir la chose que vous pensez peut vous délivrer, vous offrir la meilleure sécurité. En verset 23, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel. Et ils répondirent, nous servirons à l'Éternel. En fait, nous servons la chose vers laquelle notre cœur se tourne systématiquement dans la vie. Donc, vers quelle chose votre cœur se tourne-t-elle souvent? Servir, c'est faire des sacrifices du temps, c'est faire des sacrifices de l'énergie, c'est faire des sacrifices des finances. Servir, c'est obéir aux exigences. Servir, c'est en faire un objet de ses pensées, de ses priorités. Et ça, tout le monde sert quelque chose. C'est pour ça que Josué retrace finalement toutes les délivrances et les protections que l'Éternel a opérées pour son peuple. Il y avait trois grandes, ou quatre. Il y avait déjà la conduite des patriarches avec le don des enfants. Et ensuite, il y avait la grande délivrance, la sortie d'Égypte. Ensuite, il y avait les victoires, on va dire, rive gauche d'un côté du fleuve. Et puis, il y avait les victoires rive droite dans le pays. Et tout ça représentait des grandes délivrances, des grands saluts que l'Éternel opère son peuple et donc que les autres dieux ne pouvaient pas faire. Donc il les met devant ça pour les inciter à choisir de servir l'Éternel, le seul qui peut vraiment délivrer, sauver. J'aime bien cette citation de David Wallace, c'est un auteur athée. Il a donné un célèbre discours lors d'une cérémonie de remise de diplômes aux universitaires, donc à peu près à cette époque de l'année, on termine l'année scolaire. Et comme c'est l'habitude, on invite parfois des personnalités célèbres pour encourager les étudiants pour leur vie post-diplôme. Ils se lancent un peu dans la vie. Et ce discours est devenu célèbre, il est par la suite traduit dans de nombreuses langues. Et voici une citation qui est au cœur de ce discours. Je rappelle que lui-même, un athée, le dit. Il dit: dans le quotidien de la vie adulte, l'athéisme n'existe pas vraiment. Ne rien adorer, c'est impossible. Tout le monde adore quelque chose. Le seul choix qui s'offre à nous est de décider quoi vénérer. Et l'une des principales raisons de choisir une forme de Dieu, lui se prononce pas trop, mais l'une des principales raisons de choisir une forme de Dieu, c'est que pratiquement tout ce que vous adorez d'autre finira par vous dévorer, tout cru. Si vous vouez un culte à l'argent et aux biens matériels, si c'est là que vous puisez le véritable sens de votre existence, alors vous n'en aurez jamais assez. Vous aurez toujours le sentiment de manquer de quelque chose, et ça, c'est la vérité. Si vous idolâtrez votre corps, votre beauté, votre pouvoir de séduction, vous vous trouverez toujours laide. Et lorsque les marques du temps et de l'âge apparaîtront, vous mourrez 1000 fois avant d'être finalement mis en terre. À un certain niveau, nous connaissons tous déjà ces choses, mais toute la difficulté consiste à garder cette vérité présente à l'esprit au quotidien. Si vous vouez un culte au pouvoir, vous vous sentirez faible et craintif. Vous aurez besoin d'exercer toujours plus d'emprise sur les autres pour tenir la peur à distance. Si vous idolâtrez votre intellect et le fait de passer pour quelqu'un d'intelligent, vous finirez par vous sentir stupide, par vous voir comme un imposteur craignant sans cesse d'être démasqué, et ainsi de suite avec toutes les choses que nous pensons devoir servir. Le discours s'appelle Ceci est de l'eau. Et sa pensée, c'est de rappeler, mais comme les poissons ne sont pas conscients de cette chose qui est de l'eau, nous sommes souvent pas conscients de notre service aux dieux et aux idoles de notre culture. C'était le cas des ancêtres d'Abraham. C'est-à-dire le mode par défaut pour tout le monde, c'est de servir les dieux que la culture ambiante nous propose. Il rappelle même l'histoire des ancêtres, vos pères. Selon verset 2, Térakh, père d'Abraham, père de Nakhor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Et Abraham aurait fait pareil si le dieu autre ne l'avait pas appelé. Pour Abraham, ça aurait été impossible de ne pas servir d'autres dieux si Dieu n'était pas intervenu dans sa vie, l'avait appelé. Et c'est notre cas aussi. Nous allons par défaut, inconsciemment, servir les dieux que notre culture nous propose, à moins d'écouter la voix du vrai Dieu. Donc servir un dieu, c'est inévitable. Et comme disait Vincent tout à l'heure, on peut dire, ben moi, non, je ne sers pas les dieux, je suis le capitaine de mon âme. Mais vous venez de faire un dieu votre propre personne, votre propre ego, et en général, ce n'est pas le meilleur des dieux. Donc servir un Dieu, c'est inévitable. Une réflexion suivante, pour aller plus loin, c'est cette vérité que choisir, c'est inévitable. Choisir maintenant, aujourd'hui, un Dieu, c'est inévitable. Et Josué leur met devant ce choix. Il veut aider le peuple à officialiser leur choix. Donc il y a une espèce de cérémonie importante ce jour-là à Sichem, pour les mettre devant le choix. Il y a tous les âges, il y a une génération fidèle de personnes qui ont eu 40 ans de vie chrétienne, de vie croyante. Ils les appellent, eux, à choisir, tout comme les plus jeunes. Donc, selon les détails, on voit qu'il veut vraiment officialiser, rendre solennel l'importance de ce choix. Donc, les premiers versets rappellent qu'il assembla toutes les tribus à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, les chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Donc déjà, il y a ce rassemblement de tout le peuple, les responsables aussi, tout ça, ils vont se mettre devant Dieu, et cela à Sichem. Donc le lieu est très important, Sichem. Déjà, Sichem est pile au milieu de la Terre promise. C'est un peu comme Bourges en France, c'est-à-dire c'est vraiment la ville géographiquement au centre. Donc, ce chapitre est central de manière géographique. Mais plus que ça, Sichem, c'est aussi le premier endroit où Abraham est arrivé dans le pays promis. C'est la première fois là où il a dressé sa tente, là, il a posé ses valises pour la première fois, c'est à Sichem. Et c'est l'endroit que Abraham a construit son premier hôtel pour servir l'Éternel. Sichem, c'est le premier bout de terre dont Jacob était propriétaire. La fin du chapitre que nous n'avons pas lu évoque cela. C'est là qu'ils vont enterrer même Joseph, à la fin du chapitre, dans le champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, à cet endroit aussi. Donc, Sichem, c'est vraiment le retour au berceau de leur histoire. C'est comme l'île de la Cité à Paris, ou bien la ville de Boston aux États-Unis. C'est en quelque sorte là où tout a commencé. Donc, ce rendez-vous est lourd de sens. Et Josué fait exprès, Dieu fait exprès pour qu'il y ait un vrai engagement, une prise de conscience. Josué n'aura pas de successeur comme lui l'avait été pour Moïse. Dieu avait mis Moïse à la tête du peuple et au décès de Moïse, Dieu avait clairement mis Josué à la tête du peuple. Mais maintenant, Josué va mourir et Dieu va pas forcément mettre un nouveau leader, une personne, un homme à la tête du peuple. Cette fois-ci, Dieu ne demande pas à Josué de nommer un leader fort, un successeur, mais de responsabiliser chacun. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez de suivre l'Éternel, cette fois-ci pour vous-même. Je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, quand il y a un leader fort, on peut se laisser entraîner par le leader. Mais quand le leader n'est plus là, qu'allons-nous faire? Et Josué veut responsabiliser le peuple entier. Même quand je serai plus là, même quand Moïse est plus là, qu'est-ce qui va devenir au peuple, aux générations suivantes? Et donc, d'où cet appel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Pour les 68 ardes, vous avez peut-être connu le groupe rock canadien Rush, avec cette parole d'une de leurs chansons célèbres. Si tu choisis de ne pas te décider, tu as quand même fait un choix. Si tu choisis de ne pas te décider, tu as quand même fait un choix, ce qui est très vrai aussi en matière de croyance de Dieu. Et dans son discours, Josué met l'accent sur l'importance d'un choix à un moment précis, à un moment important. Et ce moment, c'est le maintenant, c'est l'aujourd'hui. Voyez ça encore dans le verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Aujourd'hui. Et il y a une certaine réalité, on ne peut pas faire des choix dans le passé. C'est le passé. On ne peut pas faire nos choix dans l'avenir. L'avenir ne nous appartient pas. Donc, le seul moment à prendre un choix, c'est le maintenant, c'est l'aujourd'hui. Dominique Anger, c'est un de nos amis théologiens et il enseigne à la fac. Il a fait sa thèse doctorale sur le mot aujourd'hui dans la Bible. Et j'aime bien cette pensée. Je vous lis encore une citation que j'affiche. Le mot aujourd'hui dans la Bible, selon Dominique Anger, n'est pas simplement un indicateur chronologique. Il constitue un thème théologique majeur. L'aujourd'hui biblique est le moment où la parole de Dieu interpelle le lecteur et exige une réponse. Les événements passés ne restent pas confinés au passé. Ils deviennent présents pour chaque nouvelle génération. C'est pourquoi des passages comme aujourd'hui, cette écriture est accomplie en Luc 4. Ou voici maintenant le jour du salut de Corinthiens 6. Ou aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Hébreux 3. Ce ne sont pas seulement des repères temporels. Ils expriment l'idée que Dieu agit maintenant et appelle maintenant à une réponse de foi. Et ce qu'il faut, c'est ce texte, Josué 24. A été écrit il y a longtemps, mais le fait que nous étudions aujourd'hui, ce texte recrée la même réalité pour nous, puisque nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et personne ne peut éviter le choix aujourd'hui. Vous pouvez dire, je choisis pas, je remets ça demain, mais c'est un choix. Et vous choisissez de servir d'autres dieux. Si vous ne choisissez pas de servir l'Éternel. Et le texte que Thomas a lu tout à l'heure, le psaume 95, le Nouveau Testament, s'appuie sur ce psaume en disant, voilà, puisqu'il dit aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, Dieu fait en sorte que sa parole est vivante et s'actualise chaque fois que nous la lisons, chaque fois que l'entendons. L'aujourd'hui est toujours d'actualité pour tous qui entendent sa parole. Et c'était le cas pour cette génération d'aujourd'hui. Il leur rappelle les délivrances du passé, mais c'était l'aujourd'hui où vous devez choisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Choisir aujourd'hui de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Donc, servir un Dieu, c'est inévitable. Choisir aujourd'hui quel Dieu servir, c'est inévitable. Et maintenant, échouer à son Dieu, c'est inévitable. Les dieux et les idoles sont exigeants. Les dieux cananéens, amoréens, étaient très exigeants. Pour avoir une bonne récolte, pour avoir la pluie, pour avoir la victoire à la guerre, ils demandaient beaucoup, ils demandaient des sacrifices d'enfants, ils demandaient l'automutilation, ils exigeaient la prostitution pour avoir ces bénédictions de la vie. Et c'est pour ça que la loi de Moïse interdisait beaucoup de ces choses, parce que c'était des pratiques culturelles idolâtres de ces autres dieux qui étaient finalement très exigeants. Et souvent jamais satisfaits de tout ce qu'on pouvait leur donner. Ça, c'est les dieux anciens, les deux dieux cananéens, mais les dieux modernes le sont tout autant. Si vous servez le dieu de la validation, de l'approbation des autres, vous allez toujours échouer à ce Dieu. Le jour où quelqu'un vous critique. Si vous servez le Dieu de la réussite, vous allez toujours échouer à ce Dieu. Parce que chaque réussite établit une nouvelle référence de réussite qu'il faut toujours faire mieux. L'échec prend une dimension existentielle et vous détruit. Et puis se reposer donne l'impression de prendre du retard sur les autres. Et pareil pour les autres, l'argent, la beauté, l'écologisme, si vous en faites la source ultime de sens, d'identité, aucun ne vous dira « ça y est, tu as fait assez ». Il y aura toujours une voix « jusque-là, j'échoue ». Donc ça, c'est les dieux païens, idolâtres, difficiles à ne pas les échouer. Or, le Dieu de la Bible, ben, l'Éternel aussi est très exigeant. Il est très jaloux, il le dit. C'est étonnant, il vient de dire, « Ok, nous servirons l'Éternel. » Et Josué dit, en verset 19, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Dans ces versets, Josué anticipe déjà l'échec du peuple. Et à plusieurs reprises, ça m'a étonné, vous le voyez en verset 14 et notamment verset 23, à plusieurs reprises, Josué leur dit, « Ok, si vous voulez servir l'Éternel, alors ôtez quand même les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » Verset 23, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel. » Ça, il dit à la génération qui a fidèlement combattu les batailles que nous avons étudiées ces derniers mois. Cette génération a vécu les conquêtes, Jéricho, Haï. Cette génération, ils ont vu Achan être lapidé pour avoir convoité de l'argent et pris en quelque sorte des dieux étrangers chez lui. Ils viennent de dire, « Oui, nous servirons l'Éternel. » Mais on dirait qu'ils ont tous un petit coffre chez eux avec des dieux étrangers. C'est comme si en prenant l'avion, vous êtes installé à bord, vous avez attaché votre ceinture et l'hôtesse fait une annonce. Je vous demande de remettre toutes vos armes, vos pistolets, vos mitraillettes, vos bombes et qu'on arrive à collectionner un grand nombre dans l'avion. Vous dites, mais je comprends pas, normalement c'est interdit de toute façon. Ici, une génération fidèle qui a suivi l'Éternel, on les appelle à ôter des dieux étrangers au milieu d'eux. Donc, quelque part, ça nous choque de voir une génération fidèle, peut-être la plus fidèle de la Bible, des temps bibliques, qui semble traîner des dieux étrangers avec eux. Mais probablement, nous avons notre petite collection cachée chez nous aussi. Donc, même la génération la plus fidèle, la plus victorieuse de l'Ancien Testament montre des signes d'échec spirituel, de défaillance. Et Josué semble le savoir, et donc il met cette pierre comme témoin. Mais on sent que Josué n'est pas très optimiste sur ce que va donner l'avenir, malgré ce choix solennel de choisir et de servir l'Éternel. Alors, si servir un Dieu, c'est inévitable, si choisir aujourd'hui, c'est inévitable, si échouer dans ce service, c'est inévitable, que faire? Eh bien, faites le choix de Josué. Choisissez de servir l'Éternel. Vous avez une de ces plus belles phrases de la Bible, quand Josué dit, après avoir invité le peuple à ce choix, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Verset 15, vous l'avez peut-être affiché dans votre maison. C'est bien, vivons-le aussi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué fait ce choix parce que, à la lumière de tout ce que nous avons dit, il sait que c'est le meilleur choix. Choisir l'Éternel, c'est choisir le seul Dieu dont le service nous libère. On avait dit, servir un Dieu, c'est inévitable, mais le service à l'Éternel rend libre. C'est aussi le seul Dieu qui est vraiment vivant aujourd'hui, prouvé par la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand il faut choisir aujourd'hui, eh bien choisissons le Dieu qui est vivant aujourd'hui, qui est présent aujourd'hui encore. Et c'est le seul qui pardonne nos échecs. Les autres dieux sont exigeants sans pardon, mais le Dieu, l'Éternel, le Dieu de la Bible, est rempli de grâce aussi. C'est le seul Dieu qui a mis en place un système de salut qui prend en compte nos échecs et nos manquements, notamment par la croix où Jésus a payé pour nos fautes. De sorte que oui, Dieu peut être ce Dieu saint, jaloux, sévère envers le péché, mais aussi rempli d'amour et de grâce envers nous, puisque Jésus a payé pour nos péchés. Et c'est là que nous avons mieux que la génération de Josué. Nous avons Jésus qui, lui, n'a jamais échoué. Il a tout accompli. Et si nous faisons le choix de l'avoir comme sauveur, comme Seigneur, c'est le seul Dieu qui nous dira, ah, tu ne fais jamais assez. Jésus ne nous dira pas, tu ne fais jamais assez, puisque lui, il a déjà fait tout le nécessaire. Alors, puisqu'il était impossible de ne pas adorer, de ne pas servir quelque chose, choisissez le seul Dieu qui est amour, le seul Dieu qui est bon, le seul Dieu qui est victorieux sur la mort. Je prie que cet appel résonne en nous tous encore ce matin. Et en particulier, peut-être, comme Josué a dit, moi et ma maison, je souhaite que cet appel résonne en tous ceux qui sont chefs de famille, époux, pères, parents isolés aussi. Nous choisissons non seulement pour nous-mêmes, personnellement, mais il y a forcément d'autres dans notre entourage qui seront impactés par nos choix. Et en ça, c'est plus important que choisir où passer ses vacances. C'est choisir où passer son éternité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est le seul moment. C'est le meilleur moment, mais c'est le seul moment où vous pouvez faire ce choix. Vous ne pouvez pas le faire hier et vous ne pouvez pas le faire demain. Dans le sens que le demain ne vous appartient pas. Le seul moment où on peut choisir, c'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, choisissez qui vous allez servir. Prions. Seigneur, merci pour ce livre de Josué. Merci pour aussi la manière que ta parole est actualisée et nous interpelle encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas la génération de Josué. Nous n'avons pas vécu ce qu'il a vécu, mais nous sommes une génération qui a reçu ta parole, qui a vu des délivrances encore plus grandes que la sortie d'Égypte. Nous avons vu la croix, nous avons vu la résurrection, nous avons vu le progrès de l'Évangile. Et nous pouvons témoigner tous ensemble ce matin que tu es un Dieu qui mérite d'être servi. Nous avons été déçus par les autres maîtres auxquels nous nous sommes donnés. Mais aujourd'hui, nous voulons te choisir comme maître, nous voulons te suivre, nous voulons écouter ta voix. Et nous savons que même dans nos échecs, tu nous pardonnes tout cela grâce à Jésus-Christ à la croix. Alors que cet appel retentisse dans nos cœurs et que personne ne parte d'ici avant d'avoir fait le choix de t'avoir comme Seigneur, comme maître. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.